Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 20 décembre 89.
Pensez cette petite topique qui sera assez importante du reste sur la personne. Alors, je vous disais qu'il fallait être très attentif à cette remarque que saint Thomas fait. Dépasser l'aspect philologique. Ne s'arrête pas aux mots, il essaie de découvrir la réalité. On a mis du temps avant d'exprimer ce qu'est la personne, si tu restes très curieux. On peut se poser la question, alors critique, pourquoi? Pourquoi de fait les philosophes grecs qui ont découvert si vite la nature, la phusis, qui ont découvert si vite l'âme, ont mis si longtemps à découvrir la personne. Et pourquoi dans notre monde d'aujourd'hui, la phusis est enfouie, l'âme est enfouie, et on ne parle que de la personne. Ça, c'est un très beau sujet, comme réflexion. C'est vrai, c'est très étonnant. Il y a une espèce de choses opposées, une espèce d'opposition. C'est l'opposition du reste la plus visible entre la philosophie contemporaine et la philosophie ancienne. Dans la philosophie ancienne, la nature, l'âme, c'est très présent. Alors, ne disons pas que le problème de la personne est absent, parce que le mot n'est pas là. On va dire, ne disons pas que le problème de la nature et de l'âme n'est pas présent dans la philosophie contemporaine. Alors, c'est différent. Parce qu'il faut toujours être très attentif à la montée, à la découverte. mal tourné. Mais ça, c'est l'ambition. La réalité de la philosophie de Platon, c'est pas ça. C'est beaucoup plus la recherche de l'âme et de l'immortalité de l'âme. Alors, pour lui, l'âme existe avant le corps. Vous voyez, c'est une espèce de nostalgie qu'on retrouvera chez Origène, même en terre chrétienne. C'est assez étonnant. La noblesse de l'âme ne peut se comprendre que étant antérieure au corps. Et si l'âme est unie au corps, c'est à cause du péché, à cause de l'orgueil. C'est une pénitence. On est dans une prison. Prison, notre clôture, la clôture de l'âme. On doit porter tout le temps le corps qui est la pierre tombale dans laquelle nous nous trouvons. Donc l'union de l'âme et du corps est accidentelle. Elle est extrinsèque à la nature de l'âme. Elle est quelque chose de violent. C'est de se dégager du corps, de se libérer du corps, et se libérer du corps par le point de vue de la contemplation. Parce que la vie de l'âme, avant d'être unie au corps, est une vie immortelle, divine, de contemplation. L'âme, vivez auprès des dieux, auprès de Dieu. Elle faisait partie du cortège des dieux dans la contemplation, avant d'être unie au corps. Et donc elle doit retrouver cet état initial. Vous voyez, c'est très curieux. C'est une sorte de repliement sur soi, dans ce qu'il y a de plus profond en nous, sur le vécu antérieur, qui est comme la grande nostalgie. La grande nostalgie de Platon, c'est retrouver ce vécu fondamental. Là, on retrouve des choses très analogues à notre monde d'aujourd'hui. Platon est incapable de saisir le réel. Proche de lui. C'est pour ça qu'il a peut-être la nostalgie du roi philosophe. Du philosophe roi, plus exactement. Le réel, matériel, concret, est insupportable pour Platon. Il est bête. On voit très bien ça. Cette sorte d'aristocrate philosophe, mais terriblement d'aristocrate, pas vraiment. Mais il a des oncles, des parents qui ont été d'empereurs. Alors il y a cette nostalgie du passé. Ça peut arriver, vous savez, il y a des rêves comme ça. Le rêve du grand monarque. Oui, c'est des nostalgies du passé. Le vécu. Il y a eu des choses comme ça. Alors qu'on projette. Et au fond, il y a beaucoup de ça chez Platon. C'est un peu du platonisme, c'est un rêve, on vit d'un rêve. Il faut bien distinguer le rêve de la prophétie. C'est diamétralement opposé. Et pourtant, il y a des choses assez proches. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une prophétie? Il y a le rêve du grand monarque chez Platon. Il y a une nostalgie de la contemplation qui définit l'homme. L'homme se définit par son âme. Oui, il y a donc une conception de l'âme qui est métaphousis, au-delà de la phousis, au-delà du devenir, au-delà de ce que représente le devenir. Le devenir est corruptible, l'âme est divine, elle est contemplative. Donc, une conception de la personne, si vous voulez, entre guillemets, puisqu'il n'en parle pas. C'est l'âme qui est tout. La finalité propre du nous, donc de l'âme immortelle, de l'âme spirituelle, ne peut être que de contempler. Parce que l'âme a vécu cela. Oui, la contemplation n'est plus regardée comme une finalité qu'on cherche. Et retrouver cet état premier. C'est dans ce sens-là que je ne crois pas que chez Platon, il y a une véritable finalité. C'est beaucoup plus une méthode qui serait un peu comme celle de Foucault, une méthode archéologique. Parce que l'archéologie, chez Platon, elle est céleste. Chez Foucault, elle ne l'est pas du tout. Mais il y a quelque chose d'analogue. Alors là, ce qui serait très intéressant en plan philosophique, c'est de voir que quand on n'atteint pas la finalité, on recherche le fondement. Là, je crois que c'est une des choses auxquelles on doit être très sensible. Je ne crois pas que Platon ait découvert vraiment la finalité. Il en a eu la nostalgie. Parce que Platon, c'est la philosophie des nostalgies. C'est ça qui est intéressant. De toutes les nostalgies de l'homme. La nostalgie de l'amour est l'amour le plus parfait, qui est l'égalité. C'est pour ça qu'il y a chez Platon tout un reste très fort d'amour de l'homme pour l'homme. Le point de vue de la famille est complètement dépassé chez Platon. Il est doublement dépassé par la contemplation et par cet amour d'homophilie, hein, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, c'est un amour de l'homme pour l'homme, dans le sens très fort, dans le banquet. Et dans la manière dont il présente Socrate, la fin de Socrate, Socrate dit adieu à sa femme, à son épouse, ça se fait très facilement, mais après ce sont les amis. Ce sont ses amis qui sont là, ce sont ses amis seuls qui ont le droit d'assister à la fin, quand il prend la ciguë. Le premier qui découvre la famille au plan philosophique, c'est Aristote. C'est un article pour famille chrétienne, vous voyez. C'est là, le premier. Tandis que Platon, non. La famille, c'est pour la procréation. Et donc, c'est pour entretenir le mâle, d'une certaine manière. Puisque c'est pour la formation du corps. Pour maintenir l'aspect pénal. Pour maintenir cette aliénation. Parce que la grande libération, c'est de quitter cet univers pour retrouver le point de vue philosophique, le point de vue contemplatif. Notre âme spirituelle, donc, elle naît elle-même et parfaitement elle-même, parce qu'elle est divine, que dans la contemplation et dans la compagnie des dieux et dans la compagnie de Zeus. Et c'est par la rémémoration, ce retour sur le passé, qu'on peut redécouvrir cet état d'être bienheureux, redécouvrir cette contemplation dans ce qu'elle a de fondamental. C'est pourquoi le sage, le philosophe, ne doit pas craindre la mort, il doit l'appeler. La philosophie est une préparation à la mort. La philosophie. est un peu fatigué, on lit du Platon. Quand on est fatigué d'Aristote, on lit du Platon. Et alors, Platon nous amuse et nous remet dans la perspective d'Aristote. Notre grand platoniste de notre époque, c'est Heidegger. Heidegger, c'est du Platon. C'est très reposant. C'est écrit en allemand, autrement, c'est très reposant. Ça. Oui, c'est la différence. Platon écrit en grec et Heidegger écrit en allemand. Alors, ça fait deux génies très différents. Mais il y a des choses très, très parties. C'est pour ça que Heidegger ne peut pas supporter Platon. Il ne peut pas le supporter. Et pourtant, il est très, très proche. Alors, il faut quelque chose qui est en avant, Platon, vous voyez. Toujours l'archéologie. Ce sont des archéologues de la pensée. Et ces archéologues de la pensée essaient de saisir ce qu'il y a de premier. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'homme? La contemplation des dieux. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'homme? Chez Freud, complexe d'Oedipe. Hein? Ça fait deux pôles opposés. Mais vous voyez, c'est toujours la méthode archéologique. Parce que c'est, on a perdu la finalité, alors on ne peut plus être que des archéologues. On a perdu l'invention, le dynamisme, l'amour de la finalité. Alors on retombe sur ce qu'il y a de plus fondamental. C'est ça, Platon. C'est la grande philosophie des nostalgies. Alors, le mythe de la caverne, vous voyez, ils sont des mythes. C'est très significatif. Le mythe, c'est là où on ne peut plus raisonner. Quand la raison, le logos, ne pénètre plus, on invente le moutos. Puisque Heidegger aime d'opposer le logos et le moutos. Opposer, distinguer. Alors, là où la dialectique ne pénètre plus, on invente le mythe de la caverne. C'est très très beau de prendre Platon avec tous ses mythes. Il y a un petit livre du reste qui a été écrit là-dessus, les mythes de Platon. C'est une manière d'enseigner Platon. J'avais fait ça une année à Fribourg. J'avais pris tous les mythes de Platon à travers tous ses dialogues. C'est facile à faire. Et c'est très très... C'est beau. C'est très poétique. Les fondements ou toutes les nostalgies du futur qu'on projette. Parce que le mythe est inventé pour l'origine. L'origine de l'homme, l'origine de notre univers. Oui. Alors on fait un mythe et on recommence ça chez les savants. Ce sont des mythes des savants, c'est moins poétique. Le Big Bang, c'est beaucoup moins poétique. C'est par rapport au mythe de Platon. On voit tout. Combien l'imagination de notre monde d'aujourd'hui est pauvre comparativement à celle de Platon. Les mythes des savants d'aujourd'hui, c'est très pauvre. Oh là là. Tandis que les mythes de Platon, ça vaut la peine. C'est quelque chose de très beau. Alors vous voyez le mythe de Platon de la caverne. Puisque le corps nous met en prison, donc on est dans une caverne. On trouve tous les symbolismes de l'Apocalypse. C'est très très curieux tout ça. C'est ça qui serait intéressant à faire, vous voyez. À la manière de Malraux, quand il met les stèles, la sculpture de l'Inde, la sculpture de la Grèce, la sculpture chrétienne, parallèlement, on pourrait faire tous les symbolismes des mythes de Platon, tous les symbolismes de l'âme de l'Apocalypse. Parce qu'on retrouve des choses analogues. Alors, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent comme l'art chrétien de Chartres ou l'art de l'Inde. C'est tout à fait différent, mais on trouve les mêmes formes, les mêmes expressions, le même symbole. Parce que le symbole, c'est ça, c'est la forme. Et le symbole fondamental, c'est le mythe. C'est le mythe, le symbole fondamental. Il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose d'intéressant, du reste, à saisir, parce que ça fait partie de tout ce que représente la pensée humaine. Et alors, le mythe de la caverne, l'homme dans la caverne, vois que les ombres. Quand je vous regarde, je ne vois que des ombres. On est dans une caverne, ici. Faut pas beaucoup d'imagination pour faire la caverne. Faire que les plafonds ne soient plus aussi de cette manière-là. Et puis, en fait, alors, on est dans le mythe de la caverne. La crèche, c'est le mythe de la caverne. Alors, évidemment, elle est embellie, elle est devenue toute bleue. Mais c'est le mythe de la caverne, ça. C'est le symbole. On est caché. Fondamentalement. Alors, on est dans la caverne. On voit que les choses de l'extérieur. Si on contemple, on dépasse les apparences, on voit la réalité. La réalité, elle est méta par rapport au sensible, au-delà du sensible. Elle est un monde réel qu'on saisit au-delà du sensible. Celui, le philosophe, qui contemple, saisit cette réalité. Au-delà de la caverne. Mais s'il est obligé de revenir à la caverne, par miséricorde, Platon ne dit pas par miséricorde, il dit par nécessité, pour enseigner aux hommes de la caverne que ce qu'ils voient n'est pas la réalité. Et les gens de la caverne n'acceptent pas ce dire des philosophes et ils leur en font promener. Ils les tuent. Et Jérusalem qui tue ses prophètes. C'est toujours la même chose, hein, qu'on retrouve. C'est très intéressant parce que ça fait comprendre le drame de l'homme. Il y en a qui voient ce que les autres ne voient pas. Et c'est vrai, il y a des gens qui voient ce que les autres ne voient pas. L'instinct prophétique, l'instinct de la vision. Et ceux-là ne sont pas reçus. Forcément, le philosophe n'est jamais reçu. Parce qu'il voit la vérité. Et les autres restent dans la confusion. Ils restent dans des choses extérieures, apparentes. Ils confondent la vérité et l'apparence. Ils confondent le réel et le sensible. Et la grande vision de Platon, c'est ça, c'est de découvrir la réalité au-delà du sensible. Alors c'est un dualisme, évidemment. C'est un dualisme extraordinaire, Platon. Puisque l'âme immortelle seule contemple. Et c'est ça la réalité. Le sensible, là, il le voit dans des perspectives diverses. Le mythe et le logos, le sens, les sensations, nos sensations et les idées. Les idées, c'est contemporain de l'âme spirituelle. Les idées de Platon, c'est l'âme spirituelle. Et ça, c'est l'objet de la contemplation. Donc, le mythe de la caverne exprime ce pourquoi le philosophe est fait. C'est pour ça que c'est dans la République. Et pour Heidegger, le mythe de la caverne, c'est le passage de la vérité antique. La vérité archaïque, la vérité qui s'identifie à la réalité, une vérité ontologique, à la vérité possédée par le philosophe, à la vérité dans l'intelligence. C'est très très curieux, ça c'est très capital dans Heidegger. Donc il faut aller au-delà et revenir avant Platon, et revenir avant Platon parmi. Le sage, le philosophe, doit donc ne pas craindre la mort, puisque celle-ci lui permet le dépassement. L'âme retrouve alors son état originel. L'âme retrouve ses ailes. Ça aussi, c'est très symbolique. Une âme ailée. C'est pas précisément les pieds. Juste l'inverse. Alors on retrouve cette âme ailée au-delà des limites. Elle peut alors contempler librement. La mort ne peut être crainte que par celui qui mène une vie indigne. sensible sera votre maître. Il y a une espèce de dialectique entre le maître et l'esclave qu'on retrouve entre le sensible et le spirituel et le divin. Alors si vous libérez complètement, très bien, vous rejoindrez les dieux et votre mort sera votre libération. Si au contraire vous vous laissez prendre et séduire par le sensible vous possédera et deviendra votre maître et votre réincarnation sera dans un état d'infériorité. Donc je crois qu'il faut bien comprendre cette conception très idéale de la personne chez Platon. L'âme spirituelle, l'âme immortelle. Ici encore, on ne peut nier que le problème philosophique de la contemplation est lié au problème de l'immortalité de l'âme. C'est intéressant à voir ça. Alors, la perte de la contemplation fait la perte de l'âme. Un monde qui ne sait plus ce que c'est que la contemplation, qui ne vit plus que de l'efficacité, perd son âme. Et ce que Bergson avait très fort senti. Bergson parle encore de l'âme. Après lui, on n'en parlera plus. Et Heidegger, qui pourtant désire sortir du devenir pour atteindre l'être, n'a pas assez de vitalité spirituelle pour atteindre la contemplation. Penser l'être. Mais penser l'être, ce n'est pas la contemplation. Là, ça, c'est aussi très curieux. Platon a beaucoup plus de santé. J'allais presque dire qu'il y en a trop. Il y a une santé prodigieuse, tous les mythes, tout ça. Mais c'est très vrai que lorsqu'il s'agit de Platon, le problème de l'immortalité de l'âme et le problème de la contemplation vont ensemble. Je vous ai dit, dans toute cette recherche sur la personne, on doit chercher dans la topique les liens entre la personne et l'âme. Et voir comment le problème de la personne naît à partir du problème de l'âme. Alors, il faudra se reposer la question, est-ce que pour le philosophe, le problème de l'âme est antérieur à celui de la personne? Évidemment, le problème de la destinée personnelle, chez Platon, chez Socrate, chez les pythagoriciens, est avant tout lié à celui de l'âme immortelle. Ça me semble très net. Trois grands philosophes de l'âme immortelle. De ce point de vue, on pourrait objecter qu'il ne s'agit pas de la personne, car l'âme n'est pas la personne de l'homme. Mais là, je réfléchis sur cette topique un instant, après avoir vu ce problème de l'âme immortelle chez ces trois grands philosophes de l'âme. Pythagoricien, Pythagore. Le point de vue de Socrate et le point de vue de Platon. C'est évident que c'est Platon qui les dépasse tous. Il est évident que le problème de la destinée de l'âme immortelle n'est pas celui de la personne dans toutes ses dimensions. Mais s'il en constitue, semble-t-il, un aspect essentiel. Peut-être même l'aspect premier, fondamental. Et il est important de voir que, historiquement, c'est celui-là qui s'est posé en premier lieu. Retenons ça, moi, cette topique. Que si l'histoire nous dit quelque chose du réel, et l'histoire de la pensée nous donne un ordre génétique important à saisir, on voit que c'est le problème de l'immortalité de l'âme qui est premier, la destinée. Alors, évidemment, ce problème est très lié aux traditions religieuses. Et je crois que les traditions religieuses même sont premières par rapport à ce problème. Avec Aristote, le problème va se poser fait d'une façon toute différente. C'est à propos de l'âme qu'on voit le mieux la différence entre le platonisme et l'aristotélisme. C'est ça qu'il faut saisir. Parce qu'avec le problème de l'âme, c'est le problème du nous. Alors on peut dire évidemment que le problème de l'âme, dans sa fine pointe, c'est le nous. Et que c'est à l'égard du nous que la confrontation d'Aristote et de Platon est la plus forte. Ce qui est au point de départ chez Platon est au terme chez Aristote. Là, voyez, vous touchez tout de suite les deux extrêmes. La philosophie des fondements, l'archéologie, et la philosophie de la finalité. Aristote. Parce que, de fait, la contemplation pour Platon est fondamentale. Pour Aristote, elle est au terme. Et cette parole d'Aristote qui est si forte dans l'éthique, ce que les dieux vivent éternellement, par la contemplation, le philosophe le vit par moment. Alors que pour Platon, l'état premier de l'âme était de vivre éternellement la contemplation, comme les dieux. Alors pour Aristote, on redécouvre la contemplation, mais par moments. Le temps et l'éternité, qui se situent exactement au niveau de la contemplation. Alors on pourrait, si ce serait un autre thème, permettrait de rejoindre la personne. Est-ce que quand on parle de personne, est-ce qu'on ne parle pas tout de suite de quelque chose d'éternel? Ou est-ce qu'au contraire, l'âme est éternelle et la personne est dans le temps? Et ça, c'est un très beau problème. Chez Aristote, nous pouvons dire que si le problème de la personne n'est pas explicitement posé, il est cependant présent. Et même, je dirais que c'est chez lui que le problème de la personne est le plus présent comparativement à tous les philosophes antérieurs. Le problème de la personne se découvre au niveau de la finalité. C'est dans la finalité que je découvre explicitement le problème de l'homme dans sa perfection, dans son bonheur. C'est pour ça que je crois que le problème de la personne se situe chez Aristote dans l'éthique. Aristote, c'est le philosophe de l'éthique. En premier lieu, une éthique personnelle. Et c'est pour ça qu'Aristote se considère comme plus proche de Socrate que Platon. Plus fidèle à la pensée de Socrate que Platon. C'est une petite phrase chez Aristote qui est très importante, ça. De considérer qu'il est plus proche du grand-père que Platon de son père. C'est le petit-fils qui donne un bon coup au fils en lui disant « tu n'as rien compris, c'est moi qui comprends ». Le patrimoine de Socrate, Aristote prétend l'avoir et prétend le prolonger, tandis qu'il prétend que le patrimoine de Socrate, Platon l'a falsifié. Ce qui est vrai, je crois que c'est vrai. Je crois que Aristote est bien plus proche de Socrate. Socrate l'y interroge. Platon interroge au début de sa vie philosophique. Après, il n'interroge plus. Il est parti dans la dialectique. Or, le dialecticien n'interroge plus. Bien plus, hein, le dialecticien n'interroge plus. Il sait plus ce que c'est que l'interrogation. Puisqu'il trouve tout en lui-même. dialectique implique un système. Tandis qu'au contraire, celui qui interroge, il n'y a pas de système, puisqu'ils sont toujours deux. Comment voulez-vous faire un système à deux? On coopère ensemble, on recherche ensemble, on ne fait pas de système. Et l'interrogation fait que toujours, il y en a un autre qu'on considère comme passant devant nous. Alors, c'est très net que chez Aristote, on retrouve un primat de l'interrogation, très très fort. Vous allez me dire, chez Heidegger aussi, on trouve un primat d'interrogation, mais une interrogation qui implique une attitude réflexive sur sa propre pensée et sur son vécu. Interroger le vécu, ce n'est pas une véritable interrogation. Il faut interroger l'être sauvage, comme dit Merleau-Ponty. Il faut interroger la réalité avant qu'elle soit du vécu. Parce que le vécu comme tel, on ne peut pas l'interroger. Parce qu'il est immanent à nous. Donc il est nous. Donc on ne l'interroge pas vraiment. On peut l'analyser. On ne l'interroge pas. Bien Platon, lui, Aristote, lui, va reprendre l'interrogation. Et le premier problème de la personne chez Aristote, c'est le problème de la philia, le problème de l'amitié. La rencontre avec l'autre qui se fait dans cet amour d'amitié. C'est une rencontre mutuelle. Ça, c'est la vraie rencontre. Vous ne rencontrez pas quelqu'un quand lui vous tourne le dos. Vous ne dites pas « quelle belle rencontre j'ai faite ». Rencontrer le dos de quelqu'un. Le dos de quelqu'un, c'est un mur. C'est pas le visage. C'est pas la physionomie. Tandis que quand on rencontre vraiment quelqu'un, on rencontre sa figure. Sont ses yeux. C'est sa main. C'est toute la différence, vous voyez, de rencontrer un mur qui n'est pas une vraie rencontre. On se heurte. On se casse la tête, on se fait une bosse. Tandis qu'au contraire, rencontrer un ami, c'est une rencontre, c'est mutuelle. C'est un visage, c'est un face-à-face. Et c'est là où on rencontre vraiment la personne. Aristote rencontre la personne au niveau éthique, pas au niveau de l'art. Je ne rencontre pas mon œuvre. Je la fais, je la critique, je ne rencontre pas mon œuvre. Il faut rencontrer quelqu'un qui est avant moi. Autrement, il n'y a pas de rencontre. Quelqu'un qui est plus que moi. Là, c'est curieux de voir que, pour Aristote, le problème de la personne, c'est le dévoilement de la personne par une autre personne. La personne ne se dévoile qu'à partir d'un autre. C'est, je crois, l'apport essentiel d'Aristote dans ce problème de la personne humaine. L'ami découvre l'ami. Et l'ami ne peut se découvrir qu'à partir de l'ami. Rencontre mutuelle qui se fait justement dans cette perspective éthique, dans un amour pour découvrir la personne. Il faut l'aimer et c'est en l'aimant que je me découvre moi-même. Donc c'est l'amour et non pas la connaissance qui est ce qui permet le dévoilement de la personne. Ceci, c'est très important historiquement et c'est très important philosophiquement. C'est à ce niveau-là qu'on comprend le réalisme de la philosophie aristotélicienne. personne qui va conduire Aristote à la découverte de l'âme. Le problème de l'âme n'est pas premier chez Aristote, alors que chez Platon, il est premier. Le problème de l'âme n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est le point de vue de l'opération humaine. C'est le facere, l'activité artistique, et c'est l'amitié. Ça, c'est premier. C'est l'action politique. Et dans l'action politique, je ne crois pas que dans l'action politique, on découvre en premier lieu la personne. Ce serait aussi très important à noter. Pour Aristote, l'action politique est ordonnée au bien commun. Le bien commun est supérieur à l'individu. Et donc le bien commun, qui n'est pas une personne, finalise l'action politique. Tandis qu'au contraire, l'éthique personnelle est finalisée par la rencontre de l'ami. Alors là, il y a un bouleversement complet du platonisme. Parce que la politique n'est plus première. C'est vraiment la découverte de la finalité par le point de vue de l'amitié. Et ce problème de l'amitié me met en présence de la personne. Ça, c'est tout à fait nouveau. La philia, Platon en parlait déjà. Empédocle en parlait déjà. Et Empédocle l'a universalisé comme une source cosmique. Et Platon en parle dans l'attente de l'éros. On parle de la philia dans le lysis, et le lysis conduit au banquet. Tandis que chez Aristote, la rencontre de l'ami finalise. Je ne cherche rien au-delà de l'ami, parce que l'ami me compte. L'ami me donne vraiment un bonheur. Et donc l'ami me permet de me découvrir moi-même.